Alors, en deuxième heure d'émission, tout à l'heure, on va parler d'environnement, des gestes que vous posez pour aider la planète à se sortir de ce marasme. Mais d'abord, pour la prochaine demi-heure, on va parler de burn-out, mais de façon plutôt positive. On va parler de façons de s'outiller pour éviter le burn-out, parce qu'il y en a, des façons de l'éviter. Et j'avais envie de vous faire entendre, pour entrer dans le sujet, un extrait du discours de Catherine Dorion de Québec solidaire. C'est son premier discours à l'Assemblée nationale. Elle avait parlé de la solitude des temps modernes et ça a ébranlé beaucoup de gens. Un petit extrait.
On n'est pas contre l'argent. Mais de l'argent, pourquoi? Si on n'a plus le temps de s'aimer, si on n'a plus le temps de prendre soin les uns des autres, si on passe notre vie sur le bord du burn-out, si on est de plus en plus isolé, atomisé, désorienté. De l'argent, pourquoi?
Passer sa vie sur le bord du burn-out, ça vous parle peut-être. Il y a peut-être des gens qui nous entendent, qui se disent « Moi, je le sens, je me sens stressée, fatiguée, épuisée, je manque de temps. » Alors, peut-être que parmi les résolutions que vous avez prises cette année, il y a celle de vous accorder du temps pour vous. On vous le souhaite. Je vous présente nos deux invités avec qui on va réfléchir à la question. Alain Labonté est relationniste de presse et auteur. Il a beaucoup écrit sur la maladie mentale.
Bonjour.
Bonjour Alain Labonté. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et le docteur Camilo Zacchia, qui est psychologue, invité sur une base régulière à l'émission d'Isabelle. Bonjour docteur Zacchia.
Bon matin Marie-Hélène.
Bon, j'ai raison quand je dis qu'on peut s'outiller pour éviter le burn-out.
Oui, absolument.
Ben oui.
Oui, ben ça c'est la bonne nouvelle. Mm-hmm. La mauvaise, c'est que c'est de plus en plus présent. Il y en a de plus en plus. Vous le constatez, j'imagine, dans la pratique, Dr Zacchia.
Oui, en effet, ça devient une presque automatique. La raison de consultation, je dois dire qu'il y a un bon pourcentage de gens qui sont en aide de travail, sont référés tout de suite voir un psychologue. En effet, c'est un terme, le burn-out est un terme moderne, un terme qui est populaire, qui n'a pas de définition officielle. Souvent, ça se mélange avec une dépression, parce qu'une dépression souvent implique qu'on n'est pas capable de fonctionner. Mais des fois, la personne arrête de fonctionner parce qu'ils ont trop de boulot, ils sont mal organisés, ils ont trop d'exigences. À cause de ça, ils sont incapables d'arriver.
Ouais.
Et là, ils sont en arrêt de travail. Mais souvent, les gens qui sont comme ça ont tendance de se sentir coupables, de vouloir faire plaisir aux autres. Et quand ils ne sont plus capables de le faire, ils se sentent comme un échec qui peut contribuer à une dépression. Donc, des fois, c'est mélangé avec les deux.
Mais pour qu'on puisse dire qu'on souffre d'un burn-out, mm-hmm. il faut qu'il y ait eu un épuisement au travail qui peut éventuellement mener à la dépression. Parce que
Et des fois, c'est une dépression, mais comme je dis souvent, les gens vont utiliser le terme burn-out quand ils ne sont plus capables de fonctionner. Donc, c'est devenu un terme populaire de ce sens-là.
Parce que peu de gens vont dire, dans la vie, vont dire « je suis en dépression », mais on va souvent entendre les gens dire « je suis en burn-out » comme si c'était valoriser le burn-out.
C'est moins stigmatisant.
C'est plus associé à ce qui est professionnel, entre guillemets, quand on dit burn-out, qu'une dépression. Parce qu'une dépression, ça peut être parce que quelqu'un est décédé à côté de nous et ça c'est venu nous happer, si on veut. Le terme burn-out, on l'associe au travail, inévitablement.
Mais il y a des gens qui sont plus vulnérables au burn-out que d'autres? Des gens qui s'oublient? Des gens qui sont hypersensibles? Qui est plus fragile?
Well, en effet, si vous comprenez le burn-out, un des facteurs importants, c'est de comprendre le stress. Qu'est-ce qui nous stresse? Toutes les défis sont stressantes. Donc, le stress est une combinaison de qu'est-ce que j'ai à accomplir, qu'est-ce que j'ai sur ma pile de tâches à faire et comment je gère ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est les deux qui sont en interaction. Une personne qui doit, par exemple, faire une présentation, qui n'est pas trop stressée par ça parce qu'il y a beaucoup de confiance, va être moins stressée qu'une autre personne qui n'a jamais fait ça, qui manque de confiance, qui est anxieuse socialement. Mm-hmm. Donc, quand j'analyse un état de burn-out, j'examine qu'est-ce qu'ils ont à faire. Mm-hmm. S'ils ont trop à faire, souvent c'est parce qu'ils sont incapables de dire non, veulent trop faire plaisir aux autres, etc. Versus des gens qui ont tendance de manquer de confiance ou d'être perfectionniste.
Ouais, okay.
Et quand on est perfectionniste, on donne plus de travail pour la même tâche que nos personnes.
Donc, on pourrait donner les mêmes surcharges de travail à deux personnes différentes. Il n'y a personne qui va gérer ça de la même
façon. Exactement.
Ah, bien, c'est sûr.
Donc, il y a des gens qui sont mieux outillés pour faire face à ça.
Ben oui, je trouve.
Ouais.
Moi, je me souviens, j'étais jeune, j'avais écrit un petit paragraphe qui disait « Ici, on bâtit de vieilles écoles où on ne parle plus de tendresse, où on dit que le verbe avoir est bien plus fort que le verbe être. » Et je trouve qu'il y a une grande pression sociale qu'on a aujourd'hui. Il faut être le plus beau, il faut être le plus fin, il faut avoir le plus beau sac à main, la plus belle auto. Ben tout ça engrange
des grandes conséquences
ouais. Parce qu'on veut tout offrir, on veut tout offrir à nos enfants aussi. Mais c'est quoi nos valeurs? C'est quoi qu'on veut? Comme Catherine Dorion disait, ça sert à quoi l'argent au final? C'est ça la grande question, une des grandes questions, tu sais.
Mais tu sais, quand Catherine Dorion le soulevait, c'est pas, on veut pas faire sentir coupable la personne qui vit la situation parce qu'elle vit souvent cette situation-là malgré elle. Ce qui fait que les gens sont surchargés de travail.
Parce qu'il y a toujours
bien des patrons au-dessus qui leur donnent cette tu sais, des fois, ils font l'emploi de deux ou trois personnes, là, dans la même entreprise.
Oui, souvent.
C'est une conscience qu'on doit avoir tout le monde. On part de loin, là.
Mm-hmm. Oui, parce que souvent, la question simple, c'est est-ce que les tâches sont complétées? Si oui, tout est beau. On atteint nos objectifs. Et on voit juste des problèmes quand la personne est partie. Quand la personne est partie, puis on doit les remplacer avec trois autres personnes, souvent, on aurait dû agir avant. C'est plus difficile de gérer après le cas pour les deux, les employeurs et les employés. Mais une chose est intéressante, c'est que quand vous allez à un buffet, vous allez toujours manger plus que si vous avez allé à un restaurant normal, n'est-ce pas?
Parce que c'est quand on se fait des assiettes énormes, c'est
vrai. Sommes-nous obligés de répondre à la question? Ouais.
Mais c'est vrai qu'on fait ça.
La raison que je dis ça, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'un acte est une combinaison de qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai devant moi aussi. Donc, je n'ai pas plus de faim au buffet, mais je mange plus à cause des circonstances. Donc, quand les gens travaillent dans un bureau où il y a une pile de dossiers à gérer, quand est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on arrête quand on n'a plus faim ou est-ce qu'on arrête quand il n'y a rien devant nous? Quand on écrit un examen, on a 3 heures, puis après 3 heures, on n'a pas le choix que de déposer le crayon. Tout le monde agit de la même façon. Tout le monde travaille pour 3 heures. Dans un autre cas, écrire un papier de 10 pages, une personne va mettre 20 heures de travail, une autre personne va mettre 10 heures de travail.
Je comprends.
Donc, souvent, c'est des choses comme ça qu'on appelle des contrôles de stimuli qui sont importants pour gérer le travail, une boîte bien définie pour que les gens ne dépensent pas trop ça.
Mais avant qu'on en vienne au burn-out, là, parce que quand on est véritablement en burn-out, on a de la difficulté à fonctionner. Il faut qu'on quitte le travail, il faut qu'on reprenne des forces et tout. Il y a sûrement des signes qu'on doit surveiller. Est-ce que, Alain, par exemple, dans ce que vous voyez dans les problèmes de santé mentale, les gens qui se mènent jusqu'à l'épuisement, qu'est-ce qui arrive avant?
Ben c'est sûr que, comme je disais à Camilio tantôt, avant d'entrer en onde, moi j'ai beaucoup plus été témoin de gens qui étaient dans la dépression, dont ma mère, par exemple.
Ouais,
Là on parle d'autre chose que du burn-out. C'est différent parce que tantôt on parlait du burn-out, on parle beaucoup du travail, de la surcharge, du stress qu'on a à gérer face à des obligations. Donc, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je pense qu'il faut, il faut être honnête envers soi aussi. Quand il y a des signes qui commencent à nous envahir de stress, d'angoisse, d'anxiété, je pense que c'est bien beau de dire « oui, j'ai un travail à faire, puis je vais être le meilleur, puis tout ça ». Mais si on sent qu'on n'y arrivera pas, ben, il faut demander de l'aide.
Oui, parce que je peux me tromper. Moi, j'ai un peu l'impression que le burn-out, on pourrait l'éviter, alors que parfois la dépression... c'est, tu sais, on peut pas tout le temps l'éviter, le docteur Zakel, la dépression, c'est une maladie là.
Well, bon, en effet, la dépression est un état d'humeur. Pour moi, je le vois ça plus comme un symptôme. La question, c'est qu'est-ce qui crée cet symptôme. Et des fois, c'est purement les circonstances. Si je suis quelqu'un qui prend mon travail sérieux, puis je veux faire plaisir aux gens, puis je trouve que je suis incapable d'arriver à ce que je vois comme la base, je vais être déprimé. Sauf que je peux avoir une dépression à cause des facteurs biologiques. C'est une condition qui peut être biologique, qui peut être psychologique ou sociale, ou les trois, une combinaison de ces choses-là. Donc, des fois, c'est circonstance, décès d'un être cher. Des fois, c'est des changements physiques qui arrivent régulièrement pour certains gens. Des fois, c'est plus psychologique, c'est-à-dire le perfectionniste qui est en contrôle, va bien, le perfectionniste qui a trop de travail à faire, qui est incapable d'arriver, se sent comme un échec, va être déprimé. Donc, c'est important de comprendre la source de ça, mais en général, quand on parle de dépression, on parle de quelque chose qui peut arriver indépendant du travail. Quand on parle de burn-out, parce que c'est un thème populaire, on a une tendance à référer au travail.
C'est ça.
Mais quels sont les signes que les gens devraient surveiller? Well, la fatigue en serait un, par exemple?
Well, oui, des fois, impatience, pessimisme, des choses qu'on peut tous vivre. Je connais plein de gens qui sont impatients. Je connais plein de gens pessimistes. Sauf que si quelqu'un qui est normalement optimiste devient pessimiste.
C'est ça, ouais.
Si normalement j'ai beaucoup de patience et soudainement je commence à perdre ma... réagir rapidement.
Ouais,
c'est pas nécessairement un trait de personnalité comme un changement.
Oui, oui, c'est plutôt ça. Donc, généralement, quand on voit que on commence à sauter les lunchs, on travaille après souper.
On fait moins de social.
Oui,
ouais.
Moins de social. Écoutez, je suis psychologue, mais je suis aussi mari, père, frère, etc. J'ai une vie sociale qui n'a rien à faire avec mon travail professionnel. Mmh. Et de temps en temps, j'écoute la musique, je lis un livre, je fais des mots croisés, n'importe quoi, je fais du vélo. Je suis ni psychologue, ni père de famille, je suis moi. Alors, j'ai besoin du temps pour travail.
Mais tout ça, c'est l'équilibre.
Exactement. Donc, quand le travail prend trop d'espace, la première chose qui souffre, c'est le temps à moi. Personne ne va se plaindre si je ne lis pas, mais c'est moi qui va souffrir.
Bon, on va en reparler au retour. Et si vous avez, les gens à l'écoute, des témoignages qui pourraient en inspirer d'autres, vous êtes peut-être sorti d'un burn-out, vous craignez peut-être être en train d'en vivre un, vous voulez peut-être avoir d'autres outils pour l'année qui vient pour vous éviter d'en faire un, alors réagissez, vous nous appelez dans le Grand Montréal au 514-790-9850 et sans frais de perte au Québec, le 1-866-790-9850. Alors, vous avez peut-être pris la résolution, et c'est drôle parce que dans la période des fêtes, c'est ce que je souhaitais aux gens autour de moi. Je leur disais, accordez-vous du temps, on va se donner du temps cette année. Du temps pour nous, principalement, parce que le problème du burn-out, ben en fait, l'un des traits qu'on voit chez les gens qui font des burn-out, c'est que ce sont souvent des gens qui s'oublient, qui pensent beaucoup aux autres. Et là, donc, avec nos deux invités, Alain Labonté, qui est relationniste de presse et auteur, et le docteur Camilo Zacchia, psychologue, on essaie de se donner des outils pour qu'il y en ait moins des burn-out au cours de la prochaine année. Si vous permettez, docteur Camilo et Alain, on va aller au téléphone. Linda est au bout du fil. Je pense que Linda, vous avez vécu donc vous un burn-out.
Oui, bien dans le fond, je pense que j'étais sur le point que ça se passe et puis j'ai été chanceuse dans ce malheur-là parce que j'ai pu assez rapidement identifier c'était quoi le problème. Moi, je suis une personne super joyeuse, tout le temps pépée et tout ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à m'en aller au travail, pleurer, sortir du travail, pleurer tout le temps. Mon mari, il dit « Écoute, je te reconnais pas, ça n'a pas de bon sens, tu sais, qu'est-ce qui arrive? » Et puis, on était chanceux parce que j'ai vraiment identifié que c'était vraiment au travail que j'avais un problème, même si ça fait 20 ans que je fais le même métier. J'étais à un endroit où est-ce que on n'était pas supporté ou appuyé par notre supérieur, puis on se faisait toujours presser le citron et se faire demander de plus en plus, soit d'heures de travail ou de charges de travail. Donc, à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que j'étais plus heureuse du tout et que j'étais vraiment triste, ça n'avait pas de bon sens.
Ça a été quoi, Linda, votre solution? Ouais. Quitter le travail ou parler à l'employeur?
Non, il n'y avait rien à faire pour parler à l'employeur. Ça faisait plusieurs fois qu'on passait les commentaires, moi et mes collègues, sur la charge de travail et le fait qu'on n'avait pas d'aide de nos supérieurs non plus, on n'était pas supportés. Donc, je savais que cette partie-là, il n'y avait rien à faire là-dessus. J'avais déjà passé quelques fois des commentaires ou dans le bureau pour ça. Alors, j'ai dit à mon conjoint, je dis, écoute, c'est plate, mais moi, je me choisis là-dedans. Je suis plus heureuse du tout. Fait que ça m'a même fait douter. Je me suis dit, coudonc, est-ce que j'aime encore mon métier ou j'aime plus mon métier? Parce que là, tu ne sais pas quand ça arrive, cette affaire-là.
Ouais. Alain?
Je trouve ça très intéressant, ce que Linda dit, parce que oui, après 20 ans de travail, je crois, au même endroit, je pense que c'est légitime d'être très déçu de pas voir d'issue parce que Linda devait aimer son travail et tout.
Mais elle a fini par plus l'aimer.
Oui, mais en même temps, elle s'est choisie. Elle n'est pas obligée d'être sur cette chaise-là. Et elle s'est choisie, elle s'est levée de sa chaise, puis elle a dit, je vais aller ailleurs, je vais faire autre chose.
Mais ça vient, Dr Zaki, avec beaucoup d'insécurité, parce que les gens n'osent pas parler à leur employeur parce qu'ils ont besoin des sous, là. Il faut qu'ils travaillent.
Ah, ben c'est sûr, ouais. C'est sûr. Sauf qu'on n'est pas obligé d'être assis sur cette chaise-là. Quand on n'est plus heureux, il faut se lever. Parce qu'il faut se faire confiance. Et ce qui est beau aussi là-dedans, c'est que son conjoint l'a accompagné.
Oui, c'est ça. Cool. Oui, il y a eu du sport.
Il y a ça aussi, je pense qu'elle n'était pas dans l'isolement total. Donc, ça aide aussi à
Merci
prendre
beaucoup,
des bonnes décisions.
Merci beaucoup, Linda, de votre témoignage.
Mais je veux juste dire oui. quelque chose par rapport à, juste à la fin de ça. C'est que finalement, c'est ça, je me suis choisie et mon employeur que j'étais, qui savait que j'étais très malheureuse, m'a quand même permis, moi, je suis tombée sur le chômage parce que là, j'avais un gros point d'interrogation par rapport à mon travail. Et pendant 3 mois de temps que j'étais sur le chômage, je me suis fait une santé mentale et physique. Et j'ai quand même réessayé d'appliquer dans le travail que j'aimais. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'étais à la même place. Ah. Et ça m'a confirmé que j'adore encore mon métier bon. Et que je n'étais tout simplement plus à la bonne place.
C'est
je suis très heureuse
maintenant. Bon, ben, c'est
et
le fun.
Je veux dire au monde
c'est...
de pas lâcher. Ça...
On vous aime,
ça
Linda.
Ça demande un petit peu de courage parce que il faut, comme financièrement, se dire que l'on va lâcher un travail nous-mêmes. Alors, ça, c'est pas évident, mais j'ai été chanceuse dans ce malheur-là et puis ça
ouais.
fait.
Mais c'est inspirant. Sais. C'était très inspirant de vous entendre. Merci beaucoup,
Souvent,
Linda.
Souvent, les gens mélangent la question de qu'est-ce que je fais en vie et les circonstances où je le fais. Ma profession est d'exercer dans une telle circonstance. Donc, des fois, c'est les circonstances qui est le problème.
Mais les patients que vous rencontrez, Dr Zakia, oui. Ils ont peur de parler oui. à leur employeur. Ils ont peur de passer pour des paresseux, pour des oui. gens qui...
Comme je disais, avant tout, c'est important de comprendre que quand on est malheureux, il faut un changement. Mm. Un recul, une vacance ne va pas guérir des circonstances ou un burn-out. Alors, quand on est malheureux, je dis aux gens, soit il faut changer... les circonstances, où il faut les accepter, arrêter de lutter contre ça, ou de s'en aller, qui est la dernière option que Linda a choisie. Mm-hmm. Mais avant ça, il faut comprendre que le but, alors, de dealer avec un burn-out, c'est de changer les circonstances qui ont créé ce burn-out. Il y a au moins 4 pistes de solutions possibles. Une, c'est changer les circonstances, des fois, de voir dans les objectifs, les mesures, les ventes. Des fois, il y a une personne qui fait 3 fois plus d'appels qu'un autre employé. Donc, ouais. il y a une injustice là-dedans. Ou des fois, de déléguer des choses ou de partager les tâches qui sont plus difficiles pour nous. Il y a d'autres des tâches que notre personne est mieux que moi. Donc, des fois, c'est ça. C'est-à-dire de gérer, changer les circonstances. Ça va être un changement d'attitude. Des fois, on n'accepte pas un changement. Puis c'est le travail à faire nous-mêmes. Des fois, c'est le psychologique, mes attentes, mes exigences. Est-ce que je suis trop exigeante envers
moi-même? Oui, puis il y a des gens qui sont exigeants comme ça au travail et oui. qui le sont aussi envers
Exactement.
Eux quand ils sortent du travail.
Oui. Mm-hmm. Et des fois, ça peut être un changement biologique. Il y a des gens qui prennent des médicaments qui les aident plus à lâcher prise parce que ça baisse un peu l'intensité de leurs émotions. Tout ça pour dire qu'il faut au moins un changement, idéalement plusieurs changements, pour prévenir les futurs burn-out.
Mm-hmm. Et de se faire accompagner là-dedans, c'est bien aussi,
oui.
j'imagine.
Mais si c'est plus circonstanciel, si c'est moi qui est perfectionniste, je vais avoir une tendance à l'amener avec moi dans un autre emploi. Si c'est les circonstances, si je peux les changer, tant mieux. Sinon, je vais peut-être devoir faire ce que Linda a fait, puis chercher
quitter
ailleurs.
Mon emploi.
Exactement.
On fait quoi quand ça arrive souvent, le burn-out? C'est le cas de Pierre qui est au bout du fil. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour.
Donc, vous, je comprends que vous avez vécu quelques burn-out.
Oui, c'est ça. C'est que des fois, il faut se frapper la tête plusieurs fois avant de comprendre. Dans mon cas, ce qui a fait que j'ai fait plusieurs, c'est que dans un premier temps, j'ai eu un retour au travail qui a été trop rapide. Quand on veut performer, puis souvent, c'est un peu la source du problème, eh bien, on veut performer dans sa maladie aussi, et on retourne au travail plus rapidement ou trop rapidement. Et on n'a pas passé au travers des différentes étapes de changement qu'il faudrait faire. Dans mon cas, il y a une hygiène de vie. C'est sûr, le sommeil, pour moi, c'était le baromètre là, qui me servait à dire oui, je vais mieux ou moins bien. Mais au-delà de ça, savoir dire non, être perfectionniste, évacuer les problèmes au fur et à mesure qui s'amènent. Si on est quelqu'un qui est relativement introverti et on n'exprime pas nos problèmes, on dit oui tout le temps, eh bien, on accumule quelque chose qui éventuellement sort tout proche. Et le corps aussi en subit. Alors, c'est beaucoup plusieurs facettes à gérer. Et la médication, souvent, est un bon plâtre au début, parce que c'est ça, il y a une gestion des émotions qui se fait, mais par la suite, si on prend pas en main différents comportements, une hygiène de vie, bon ben, on risque de retomber.
Docteur Zaka, dans la façon de traiter le burn-out, il n'y a pas nécessairement de médication.
Non, c'est un traitement pour beaucoup de gens et ça peut aider beaucoup de gens. Il y a des gens qui résistent et tout ça, mais ayant dit ça, c'est une option dans certains cas qui est
envisageable, nécessaire. Ouais.
Par contre, ce que le monsieur vient de dire, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Ça, c'est quelque chose facile à dire. Comme pour perdre du poids, il faut juste manger moins. Ah, j'avais aucune idée que c'était ouais. si simple.
Faut pas aller dans un buffet, en tout cas.
Mais apprendre à dire non, c'est une école en soi, là.
Si je suis quelqu'un qui veut faire plaisir aux autres, je ne peux pas simplement dire c'est pas ma job. Sauf quand je suis vraiment épuisé. Ce que j'essaie d'enseigner aux gens, c'est d'apprendre au moins de pas dire oui tout de suite. Peut-être d'avoir un mécanisme de délai. Connaissez l'expression quand vous êtes fâché, tourner la langue cette fois avant de parler. Ou quand René Lévesque, on lui posait une question, il disait toujours écoutez. Prenez une pause, quelques minutes. Donc, j'encourage les gens de dire ok, laisse-moi voir si je vais avoir le temps ou je suis en train de faire quelque chose, je vais venir plus tard. Et ça nous donne un peu le temps de dire est-ce que je peux vraiment dire oui à ça? Et on peut revenir avec une réponse comme « j'aimais vous aider, mais je ne peux pas ». Ça, c'est plus facile de dire que de dire non.
Pour ça, il faut se connaître et apprendre à s'écouter aussi. C'est ce que je pense Pierre a réussi à faire. Merci beaucoup de votre témoignage, Pierre.
Peut-être juste une petite chose.
Oui.
Dans mon cas, un outil qui m'a été bien précieux, c'est que le psychologue, parce que je voyais un psychologue, m'avait donné en devoir de conserver toutes les choses qui étaient comme non réglées. Puis des fois, c'est toutes sortes. Puis qu'à chaque jour, les documenter. Puis le lendemain, essayer de travailler dessus, puis de revenir et puis de les régler au fur et à mesure plutôt que de les accumuler. Alors, c'est juste un petit truc comme ça en passant.
Bien, je suis certaine que vos conseils en ont inspiré plusieurs. Merci beaucoup, Pierre, et bonne année 2019.
Merci.
Alain, j'aimerais parler parce que, avec toi, de la vulnérabilité. Les gens, dans l'ère où on vit actuellement, ne veulent pas se sentir vulnérables. Ils se montrent forts, particulièrement l'homme. Comment on peut arriver à se sortir de ça?
Ben, c'est sûr que moi, j'ai été élevé avec une mère qui était aux prises avec des problèmes de santé mentale et tout ça, et j'ai vu cette vulnérabilité-là, si on veut. Moi, je pense que comme Camilio disait tantôt, quand on a de quoi à l'intérieur de soi qui nous chicote, qui nous dérange, c'est pas de le sublimer, c'est de l'amener devant soi, d'en parler, tu sais. On est dans une époque où, c'est ça, faut être le premier à la ligne. Moi, j'ai regardé l'autre jour mon garde-robe. Je pense que j'ai 18 paires de chaussures, j'ai 80 vestons. Tu sais, je me disais, hey, c'est quoi que je veux de plus, là? Et tout ça...
Non, ça mais fait beaucoup rire, Dr. Zakia.
Non, mais c'est vrai.
La question, c'est, on court après quoi, là?
Oui, mais tout ça amène une pression aussi. Qu'est-ce que je veux encore? Mais si je veux encore quelque chose de plus, je veux-tu un chalet? Je veux-tu avoir un bateau? Mais tout ça fait que je vais m'en mettre encore plus ses épaules. C'est quoi mon réel bonheur, moi, dans la vie, tu sais? On en revient au départ.
La vie est si courte, hein? Ça va tellement
vite.
Vous savez
que si on va au magasin et il y a une paire de souliers qu'on aime et on voit le prix et c'est 500$, souvent on va dire non merci. Parce qu'on pense à l'échange entre qu'est-ce que je reçois pour l'argent que je donne. Mais au travail, c'est rare qu'on se pose la question qu'est-ce qu'on donne pour l'argent qu'on reçoit en retour? Et il faut, je crois, je dis aux gens qu'il faut bien travailler fort, mais en même temps, de reconnaître que vous avez, c'est des moyens pour amener une vie, pour mener une vie. La fin, c'est d'avoir le bonheur. Et si le travail empêche le bonheur, là, vous avez un échange qui est
malsain. Il faut faire des choix, là. Bonjour, Josiane.
Bonjour, ça va bien?
Oui, je vais bien. Et vous, comment vous allez?
Ça va mieux.
Ça va mieux?
Oui, ça va mieux. Moi, je suis, comme vous dites, une perfectionniste, une performante et une orgueilleuse. En plus. Donc, je suis gestionnaire en santé mentale.
La formule de burn-out.
Oui, exactement.
Et vous êtes gestionnaire en santé mentale?
Oui, en plus.
OK. Mais ça, c'est vraiment le cordonnier mal chaussé.
Bien, on peut dire ça, parce que avant de partir, j'ai des employés qui me disaient, Viviane, tu prends soin Josiane, excusez, j'ai pas dit mon vrai nom.
C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, c'est Josiane, votre vrai nom.
On est avec vous.
Ça va pas bien, je voulais pas être reconnue. Là.
Mais c'est pas grave. Non, personne vous reconnaît. Allez-y.
J'aime quand même beaucoup mon travail. Là. Et qui me disait, quand tu sais, tu prends soin de nous autres, parce que d'autres aussi, c'était difficile. Quand est-ce que toi, tu vas appliquer les choses pour toi? Ça m'a allumé une lumière, mais une semaine après, je me suis retrouvée à l'hôpital. Signes vitaux faibles, chute de pression. J'ai passé la journée à l'hôpital et c'est à partir de là que j'ai réalisé que fallait que je prenne une pause. Ce qui m'a aidé énormément par la suite, c'est un ergothérapeute. J'ai vu une psychologue, mais un ergothérapeute, je ne savais pas qu'il y avait des ergothérapeutes au niveau de la santé mentale. Puis c'est beaucoup plus concret dans ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme?
Okay. Et vous, ça vous convenait? Et là, vous êtes-vous de retour au travail ou ça se fait de façon progressive?
Ça se fait de façon progressive, mais je vous dirais que ça remet tout en question ma carrière. Puis je suis en train de regarder à faire quelque chose avec moins de pression. Je suis quand même dans le réseau de la santé. Puis actuellement, bon,
pas facile.
C'est difficile. J'aime ça, j'adore la santé mentale, c'est vraiment mon domaine, la gestion aussi. Fait que je suis plutôt en train de regarder là, que je peux faire autre pour pas retomber dans ce pattern-là.
Ben merci beaucoup de nous avoir appelé, Josiane.
Merci.
Au revoir. Bonne fête de journée. Bonne année 2019. Je remercie infiniment nos deux invités ce matin. Juste d'en parler, d'inviter les gens à se questionner sur leurs priorités, se demander s'ils sont heureux au travail et peut-être se faire le cadeau cette année de s'accorder du temps et de s'écouter. Ça pourrait être bien en 2019. Merci infiniment à vous deux. Alors, nos invités pour parler de ces outils pour s'éviter un burn-out au cours de la prochaine année. Alain Labonté, relationniste de presse et auteur. Il y a un nouveau livre qui s'en vient, Alain?
Oui, livre que je co-écris avec mon amie Florence Menet. Ce sera 12 portraits en santé mentale. Et ça s'intitulera « Un jour, ma tête a plié les genoux ».
Ah, mon Dieu, oui, c'est tout à fait dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup,
ça
Alain. Docteur Camilo Zacchia, merci infiniment de votre visite ce matin et bonne fin de journée. Au retour, on va parler d'environnement et des gestes que vous posez pour aider notre Terre à mieux respirer.